Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jiggy da, kani jiggy mi senya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
C'est un instrumentiste de grand talent que nous avons le bonheur de recevoir aujourd'hui. Il est né à Kébémer, au Sénégal. Il est très vite devenu un musicien incontournable, aussi bien en Afrique, en Europe qu'aux Amériques. Il a joué avec tout le monde, de Randy Weston à Nina Simone, de Manu Dibango à Salif Keïta, de Claude Nougaro à Jean-Luc Ponty, de Johnny Clegg à Michel Petrucciani. Il vit désormais aux États-Unis, mais il nous fait l'honneur d'une visite à Paris. Abdoum Boup, soyez le bienvenu.
Merci beaucoup et salut à tout le monde.
Vous nous présentez aujourd'hui votre sixième album avec le groupe Wakao, intitulé African Lullaby, et dont nous allons écouter quelques extraits durant cette émission, mais nous allons aussi évoquer votre épopée, car vous faites partie de cette famille de virtuoses qui multiplie les rencontres et les expériences. Quand avez-vous commencé à vous confronter aux autres et à collaborer à divers projets ?
Oh, ça remonte des années 80. Tout de suite, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance de jouer avec Eddie Lewis, avec lequel j'ai joué pendant les 10 années. Et donc, qui est en fait mon mentor.
Qui est un grand organiste,
oui.
Disparu en 2015.
Voilà, et donc qui est mon mentor et qui m'a beaucoup appris. Parallèlement, j'ai joué aussi avec d'autres gens. Claude Nougaro, avec Michel Petrucciani, Eric Lelanne, avec... La liste est longue. Jean-Luc Ponty, plein de gens.
Dans les années 70, vous jouiez avec le groupe Khalam.
Yeah. Khalam, c'était un groupe sénégalais qui ont commencé le mbalax, le style que joue le Youssoundour et autres. Donc moi, je suis le premier musicien à incorporer le sabar, c'est-à-dire la percussion africaine, dans cette musique de danse. Et donc, j'ai composé aussi le premier hit de l'histoire du mbalax avec le Khalam. Parce qu'à l'époque, dans un groupe, il fallait avoir un griot au sein du mouvement pour que ça sonne. Et j'étais le griot du groupe. Et donc, c'est moi qui apportais les rythmes. J'écrivais aussi les chansons. J'ai commencé à jouer l'instrument, le sabar, la percussion sénégalaise, à l'âge de 3 ans, comme tous les griots d'ailleurs. Voilà, nous sommes les gardiens de la tradition.
Et vous étiez sous le haut patronage de Youma Sekela avec le groupe Khalam. Qu'est-ce que vous avez appris à son contact ?
Oh, beaucoup de choses. Parce que Youma Sekela, il est venu au Sénégal. On a vécu longtemps au Sénégal ensemble, à tourner ensemble, à jouer ici et là. Et ce qu'ils nous... Comment on dit
Dites-le en anglais si vous ne le trouvez pas en français, parce qu'il faut expliquer que Adumbo vit aux États-Unis et donc forcément il y a plus de mots anglais qui apparaissent.
Il y a les mots qui échappent de temps en temps.
Wolof, dites-le moi en Wolof, je me débrouillerai.
Il nous conseillait en fait de garder les rythmes, les percussions dans le groupe. Et il était tellement intéressé par cette forme de musique qu'on avait créée, parce qu'après l'Ambalar, on a créé cette nouvelle musique. Et donc, il nous a amenés au Liberia avec lui, au festival là-bas. Et donc, il y avait Myriam Keba, les Tamboulou, il y avait plein de gens là-bas. Donc, on a fait ce festival, mais il était un maître, en fait.
Un autre trompettiste vous a également ouvert la voie vers la professionnalisation de votre art, c'est John Hassell.
Oh yeah! John Hassell était un gars qui jouait une musique expérimentale. Quand je l'ai rencontré, je jouais tout seul en solo, je venais du Sénégal. J'étais au Rex, dans un festival où je jouais tout seul. Et après, il est venu me voir, il me dit « Oui, ce que tu fais est classique ». J'ai dit « Oh, classique ». Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il veut dire par classique? Et il me dit, j'aimerais bien en fait jouer avec toi. Mais je ne le connaissais pas. Je dis, mais qui êtes-vous? Il me dit, oui, moi j'ai joué avec Nana Vasconcelos. J'ai dit, oh, il doit être génial s'il a joué avec Nana Vasconcelos. Et donc, je suis allé à Montpellier jouer là-bas. Et j'entends quelqu'un qui m'appelle. Et c'était John. Je lui dis, ben moi je t'ai appelé plusieurs fois, mais il n'y a pas de réponse. Il me dit, oui, j'étais parti, quoi, mais je vais te rappeler à Paris. Et il m'a rappelé, je vais chez lui, il me dit, prends le taxi, amène les tambours. Je vais chez lui directement. Et quand je suis arrivé, je vois des pot drums. Tu vois, c'est des canaries où il y a des trous qui sortent des sons. Et moi, je saute là-dessus, quoi, je commence à jouer. Il ne me dit rien. Il commence à prendre la trompette et jouer à côté. Et moi, je continue à jouer. Mais quand il a commencé, je me suis dit, ben, qu'est-ce que c'est que ce son-là? Parce que c'est un son que je ne connaissais pas, parce qu'il fait une musique expérimentale. Et donc, il m'a dit, oui, vous connaissez la musique des Mauritaniens? Et je commence à lui chanter ça. Il me dit, oh, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, il m'a fait... Il voulait aller avec moi aux États-Unis pour enregistrer, mais à l'époque, je n'avais pas les papiers. Donc, j'ai enregistré au Polydor, au studio, tout seul. Et il a amené l'enregistrement aux États-Unis. C'est un album, il a eu un prix avec aux États-Unis, en même temps que Miles Davis d'ailleurs. Et ensuite, il y a quelques années, il m'a rappelé aux États-Unis, il m'a fait jouer dans un autre album qui s'appelle Marifa.
Il a 82 ans, ce monsieur, aujourd'hui.
Mais il est solide aussi, hein. C'est un mec qui est très solide.
Est-ce qu'on peut dire qu'il a été déterminant dans votre cheminement artistique?
Tout le monde est déterminant, parce qu'à chaque fois que je joue avec quelqu'un, j'apprends des choses. Parce que, en fait, chaque leader a un esprit. Et chaque musique aussi a un esprit. Et donc, à chaque fois que je joue avec quelqu'un, j'essaie de prendre le maximum possible quelque chose que je n'ai pas. Et c'est ça qui fait que ma musique est originale.
Avec John Hassell, vous avez participé au festival WOMAD.
Le premier.
De Peter Gabriel, en Angleterre, ouais. En 1982. Quel souvenir vous gardez de cette aventure musicale-là?
J'ai eu la chance de rencontrer des musiciens et des groupes aussi. C'est là où j'ai vu Nana Vasconcelos jouer avec Don Cherry. Il y avait plein de gens, je découvrais des choses. C'était sympa, c'était une bonne expérience.
Et après, votre vie de percussionniste s'est accélérée, puisque vous avez joué avec Eddie Lewis, on le disait, grand organiste français disparu en 2015, mais aussi Claude Nougaro, Didier Malherbe, Michel Portal, et puis Michel Petrucciani, on le disait. Comment vous décririez Michel Petrucciani?
Humainement, il était génial. Il aimait aider les gens aussi. Et il était marrant. Il était très drôle. En fait...
C'était un bon vivant.
Voilà.
Il aimait le bon vin, il aimait...
Oui, oui. Il aimait les femmes. Non, il était un mec sympa.
Il profitait de la vie.
Oui, exactement.
Je vous propose, Abdoumboup, de vous retrouver tous les deux à Metz, en France, en novembre 1991, et nous évoquerons ce concert paru chez Blue Note Records. Contradictions ou Contradictions, Michel Petrucciani à l'Arsenal de Metz en 1991 avec aux percussions notre invité du jour, Abdoum Boup. Quelles images vous restent en mémoire de cette tournée de 1991?
Avec Michel, on a voyagé pas mal dans beaucoup de countries, beaucoup de pays. On a fait le Japon, les États-Unis, ou presque toute l'Europe. Malheureusement, cet album-là, Blue Note a enlevé quelques trucs pour avoir la connotation jazz. Mais c'était beaucoup plus vivant que ça. Et il y avait même Adam Holtzman qui avait joué là-dessus. Et on ne le sent pas sur le disque parce qu'ils ont enlevé pas mal de trucs.
À l'époque, Michel Petrucciani avait réussi à séduire le public américain. Est-ce que c'est son exemple qui vous a incité à vous installer aux États-Unis en 1995?
Quand je suis allé aux États-Unis, avec lui d'ailleurs, on a joué au Blue Note pendant une semaine. Et quand je suis revenu, en fait, ce qui m'a poussé à aller aux États-Unis, c'était l'économie en Europe qui chutait. Donc, après Johnny Clegg, je ne travaillais pas assez. Et donc, j'étais obligé de partir. Mais quand je suis parti là-bas, j'ai rencontré une dame. En fait, c'est une copine de Michel Petrucciani qui m'a introduit à cette dame qui s'appelle Marie-Anne, qui a découvert Richard Bonin, qui était agent de Herb Hancock, Dan Kroll, a lot of people. Et on sympathise, on parle. Et quand je suis retourné pour habiter, je la rencontre encore au Blue Note. On s'assoit au bar. Je lui dis, mais écoute, je suis venu maintenant habiter aux États-Unis. Elle me regarde, elle me dit, tu ne vas pas avoir du travail ici. Je dis, ben pourquoi? Elle me dit, mais oui, parce que je t'ai vu avec Petrucciani. Mais quand tu joues, les gens ne regardent que toi. Et ça, les leaders ici ne veulent pas ça. Quand je suis sorti, je me suis dit, mais ça, ce n'est pas un musicien qui parle. Hein, parce que ce n'est pas un langage de musicien, ça. Hein. Mais en même temps, je garde ça dans ma tête. Et c'est vrai que la plupart du temps, aux États-Unis, quand les musiciens me voient jouer, ils ont envie de jouer avec moi. « Oh, je peux avoir ta carte et tout ?» Quand je donne la carte, mais il ne m'appelle jamais. Et moi, je n'ai pas attendu. Bon, je joue, mais je me suis plus concentré sur mon truc, toujours. Sur mon groupe, ça s'appelle Wakao. Et je fais des concerts. Quand le budget est un peu serré, je vais tout seul, en solo. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir jouer tout seul et de raconter l'histoire. Depuis Tombouctou, au Mali, à Mississippi. C'est ce que je fais aussi à travers les universités, libraries, schools aux États-Unis.
C'est ce que vous devriez développer aussi en France.
Ça serait génial.
Très intéressant. Alors évidemment, à proximité des grands jazzmen américains, vous avez jamais collaboré, enregistré avec des géants de l'épopée des musiques noires, Harry Belafonte. Ça doit être une aventure incroyable.
J'ai fait une tournée de 3 mois avec lui en Europe. C'est un activiste aussi.
C'est vrai.
Il a fait des hits. Donc... c'était une expérience d'aller avec lui aussi, quoi.
Ron Carter?
Oui, nous avons enregistré un album avec Red Hot. Mais c'était un truc au mélange de hip-hop et de jazz.
Vous avez aussi joué avec Kenny Barone.
Oh yeah.
Grand pianiste.
Oui, j'ai joué avec Kenny Barone. On a fait une semaine à Lincoln Center, un club qui s'appelle Dizzy's Club. Et d'ailleurs, Mino Senu, lui, était à la batterie ce jour-là. J'ai été surpris de le voir jouer à la batterie. Parce que Mino, il prend des risques toujours, Mino. Je le regarde, je dis, ben, tu joues la cora? Il me dit non, je dis, ben, tu me rassures alors.
Ah, mais c'est un musicien redoutable. Hein. Et puis, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Abdoum Boup, c'était avec Joe Lovano.
Oh yeah.
Saxophoniste, immense saxophoniste américain.
Jazz sous les pommiers.
Vous jouiez à Jazz sous les pommiers à Coutances, dans le nord-ouest de la France.
Yeah, correct. On était en tournée en Europe. Malheureusement, en France, on n'a fait que ce concert. Parce qu'après, on est allé à Londres, Belgique, un peu partout, quoi. C'était une bonne expérience.
C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, Joe Lovano?
Je le connaissais, je l'ai rencontré avec Michel Petrucciani dans les années 90. Quand Michel s'est marié, à l'église, c'est lui qui joue le sax. Il avait envie de jouer avec moi depuis lors, parce qu'il m'a vu jouer au Blue Note avec Michel Petrucciani. Et puis on a été au Village Vanguard jouer pendant le mariage de Michel. Et quand il m'a appelé pour jouer, il m'a dit « j'attendais ce moment ». J'ai dit « ben écoute, on le fait alors ».
Est-ce que les États-Unis sont un pays accueillant où le rêve américain est toujours possible, où vous pouvez vous épanouir facilement.
Aux États-Unis, je crois que nous qui ne sommes pas américains, ils nous demandent plus. Ils ne nous demandent pas d'être bons, c'est d'être spécial. Pas de jeu comme eux, mais d'être spécial. Qu'on joue un truc où quand ils écoutent, ils apprennent. Et c'est pourquoi beaucoup de musiciens aux États-Unis aimeraient bien jouer ma musique, parce que c'est différent de ce qui se passe là-bas. Moi, je connais beaucoup de musiciens qui ne sont pas américains, qui viennent là-bas et qui jouent du jazz, mais ils ne sont pas connus, ils ne sont pas considérés, ils s'en foutent. Mais ils nous demandent plus.
Donc il faut se distinguer, en fait.
Exactement, il faut être spécial aux États-Unis, quand on n'est pas américain.
Est-ce que l'Europe, la France, Paris et votre Sénégal natal vous manquent ?
Le Sénégal me manque tous les jours, même si c'est 3 jours. Ça me manque, parce que c'est là-bas où je me ressource. Et puis c'est bien d'être là-bas entouré des amis d'enfance. Je ne pense pas à la musique là-bas.
Sur votre album, African Lullaby, il y a une composition intitulée Motherland, la terre natale.
Yes.
C'est votre clin d'œil à la terre d'Afrique ?
Oui, Motherland. En fait, je l'avais composé pour un duet avec Elio Villafranca et un pianiste cubain. On avait un duet. Et donc, je l'avais composé pour le duet. Ensuite, quand j'ai mis les voix, j'ai entendu d'autres choses. J'ai entendu des cuivres. Et je commence à mettre les cuivres. Et ensuite, j'entends la basse. Et finalement, je me suis dit, ben écoute, on va développer ce morceau. Et je l'ai développé tout seul, et finalement je l'ai gardé pour moi et pas pour le duet.
Et le résultat,
oui.
Et ben le voici.
J'adore ce morceau.
Motherland, Abdoumboup en 2019 sur l'album African Lullaby. Pourquoi les cultures et musiques africaines passionnent autant de musiciens à travers la planète selon vous ?
Mais parce que toutes sortes de musique, je peux dire, découlent from Africa. Par exemple, la kora, on dit que ça a été créé dans le 11e siècle. Ibn Battuta nous révèle qu'ils ont aperçu la kora dans la cour du pharaon. Donc on ne connaît pas exactement l'âge de cet instrument. Et les instruments européens sont faits à la fin du 18e siècle. Je vais te donner une anecdote. Une fois, Wynton Marsalis.
Immense trompettiste américain.
Oui, il me dit, en fait c'est son ami qui m'a appelé, qui me dit, attends, je te passe Wynton. Et Wynton qui me dit, mais brother, j'ai besoin de toi. J'ai dit, ben qu'est-ce qu'il faut faire ? Il me dit, je suis en train de composer une musique des Ghanaiens, mais il n'y a que le rythme. En fait, c'est un groupe de percussionnistes. Mais il me dit, ces gars ne peuvent pas me montrer le 1. et moi je ne connais pas où est-ce qu'il est le 1 pour composer. Donc j'ai besoin de toi. J'ai dit, ben moi j'ai mes enfants, pour le moment je ne peux pas venir. Il me dit, amène les enfants, j'ai mes enfants aussi, quoi, j'ai pas de problème. Et donc je vais chez lui.
Avec toute la famille donc.
Oui, avec mes enfants, et puis j'amène le tambour. Et j'arrive, il met la musique et je commence à jouer. Il arrête, il me dit, mais pourquoi pas moi? J'ai dit, pourquoi pas toi? Et c'est parce que moi je suis né dans ça. Ça c'est ma musique originelle. Je n'ai pas besoin de compter moi pour jouer ça. Je joue directement. C'est pourquoi d'ailleurs, les traditionnels ne peuvent pas te montrer il est où le 1. Ce n'est pas dans notre culture de compter, on joue directement.
C'est inné.
C'est inné. On ne compte pas, on joue directement. Et du coup, je l'ai à Winton, j'ai commencé à lui montrer le 1. Et il commençait à jouer, il avait la banane, quoi. Il était content, parce qu'il sait. Mais c'est comme ça. Même dans le Mbalar, au Sénégal, les musiciens ne savent pas où c'est le 1. On joue, quoi, directement, sans penser.
Pourquoi, au-delà de votre talent, tant de musiciens font appel à votre musicalité, que ce soit à la cora, à la batterie ou aux percussions? Pourquoi fait-on appel à vous?
Je crois que j'ai un truc qui n'est pas comme les autres. Je crois que j'ai un truc qui est spécial, parce que je suis griot d'abord. Et donc j'ai un rythme very strong. J'ai un rythme très puissant. On ne blague pas avec le rythme. Quand on est griot et que tu ne sais pas jouer, ou bien tu fais une fausse note au moment du concert et qu'on te dise que tu joues comme un guerre. Un guerre, c'est les non-griots. Tu te sens frustré. Et donc, les gens ne savent pas la source de mon inspiration. Parce que non seulement je suis un griot, mais je suis aussi un témoin d'une génération. Donc, j'apporte tout ça dans ma musique, et c'est ce qui crée la différence.
Que recherchaient les Joe Zawinul ou Jean-Luc Ponty en vous incitant à les rejoindre sur scène ou en studio?
Jean-Luc Ponty, j'ai enregistré simplement 2 albums avec lui. On a fait un album, le premier album qu'on a fait était un hit dans le monde.
Chocolat.
Yeah. On a créé cette musique, on lui a donné à Jean-Luc. Il est parti 2 semaines apprendre la musique et revenir. Parce qu'il ne savait pas, il ne connaissait pas.
C'est pas sa culture.
Non. Donc il est allé apprendre la musique pendant 2 semaines et il est revenu avant d'aller en studio encore.
Que diriez-vous d'écouter Mam Mai, enregistré en 1991 avec Jean-Luc Ponty?
Oh my God, ok, on y va. We'll be right back. c'est ma composition. Hein. Ça, ça remonte de très loin. Hein.
1991.
Yeah.
Sur une composition de Abdoum Boop, donc. Yeah. C'était un extrait de Chocolat paru en 1991. Et vous étiez en compagnie d'autres excellents musiciens, Guy Sangay, Brice Wassy, Angélique Kidjo faisait partie de ce projet-là également. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec la famille des musiciens africains de Paris? Est-ce que l'océan Atlantique vous a un peu éloigné d'eux?
Ici, quand je suis là, je ne connais plus personne. Je ne sais pas où aller. J'ai habité ici pendant 3 mois. Je n'ai même pas rencontré une personne que je connais. Mais là, je vais faire des va-et-vient maintenant. Je serai plus souvent ici. J'aimerais même monter un groupe ici en France à la place de vouloir amener mon groupe américain parce que c'est pas simple.
Cela dit, il y a beaucoup d'excellents musiciens à Paris.
Il y en a, oui.
Mais écoutez, peut-être qu'à travers cette émission, vous allez recevoir quelques coups de fil. Allez savoir. Abdoum Boop, précisons que depuis 25 ans, vous avez votre propre groupe, donc Wakao, avec lequel vous avez enregistré 6 disques en comptant le dernier, African Lullaby. Est-ce que ce groupe représente la somme de toutes vos expériences?
Bien sûr. C'est par rapport à ce que j'ai appris ici et là. Mais aussi, c'est par rapport à mon background de griot. Donc, j'amène toute mon expérience. Et c'est vrai que je ne joue pas avec des Africains dans mon groupe. Mais les gens qui sont là-dedans apprennent des choses et m'amènent aussi leur expérience.
C'est un échange.
Voilà. Et c'est ça qui fait que cette musique est très originale.
Merci Abdoum Boop.
Merci beaucoup Dio.
Et tous nos voeux de succès pour ce nouvel album African Lullaby.
Merci beaucoup.
Et à une prochaine fois.
À la prochaine.
Dio Diev.
Nyoko Boko.
Une dernière recommandation avant de se quitter. Le label World Circuit réédite ces jours-ci quelques albums essentiels de l'épopée des musiques noires qui vont vous intéresser, Abdoum Boop.
Bien sûr.
Notamment l'ultime chef-d'œuvre d'Ali Farka Touré intitulé Savane et le disque qui révéla la chanteuse cubaine Omara Portuondo au monde entier après le succès du Buena Vista Social Club. Nick Gold, l'instigateur de toutes ces reparutions, sera d'ailleurs notre invité très bientôt. Merci à Nathalie Laporte pour la réalisation afroplanétaire du jour. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.